On va terminer notre étude sur les dons de l'esprit. L'accent est vraiment sur l'unité, l'unité de la foi. En fait, les dons de l'esprit sont faits pour nous unir en Christ. Les dons de l'esprit, c'est effectivement pour l'unité de l'Église. D'abord, c'est l'unité a une importance cruciale pour l'Église et pour l'utilisation des dons. Et deuxièmement, il faut que nous parlions justement de cette dernière liste qui est très importante et que nous parlions des enjeux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné ça? Et quelle est l'importance? Voilà un peu où on est. D'abord, on parle de l'unité de Dieu et ensuite les dons et l'enjeu. Nous sommes en Éphésiens, chapitre 4, et je vais lire les premières 10 versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donné selon la mesure du don du Christ. Et c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Ce qui est important, et même dans ce petit passage, c'est l'unité. L'unité existe déjà. En fait, l'unité existait avant l'Église. L'unité a existé avant la création de la terre. L'unité existait dans le Dieu qui se manifeste en trois personnes, la Trinité, comme nous avons dit la dernière fois. En fait, on m'a parlé justement d'une danse entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui travaillent dans une unité parfaite. Le Père dirige, le Fils qui communique, le Père, l'Esprit Saint qui glorifie le Fils, tous ensemble, tout en travaillant dans une cohérence parfaite et dans une unité parfaite. Alors notre unité doit ressembler cette même danse, cette même idée dans la Trinité. D'ailleurs, c'est pour cela que cette chanson que nous venons de chanter tout à l'heure était si importante. La façon côté Viveso, en chantant justement la gloire à notre Dieu qui se manifeste en trois personnes, la Trinité. Comme il y a cela, c'est pourquoi Paul nous appelle à une vie qui est digne par l'humilité et la patience. Parce qu'il y a un seul corps, comme Paul dit, un seul esprit, aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. C'est important parce que c'est uni, mais voyez, ces choses sont distinctes, ces personnes sont distinctes. De la même manière, l'unité de l'Église ne veut en aucun cas veut dire que nous sommes tous identiques. On n'est pas des briques, si vous voulez, qui fait un mur où chacun doit être parfaitement identique les uns les autres. Non, il y a une diversité, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, une diversité de dons pour le même corps de Christ. Et c'est justement cette diversité qui évolue et nécessaire parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais comme Dieu se manifeste en trois personnes, il est nécessaire aussi pour nous de réaliser que chacun a sa place, chacun a un don. Et la seule manière à ce que l'Église puisse vraiment avancer dans la voie que Dieu a tracée pour nous, c'est que chacun soit impliqué, chacun dans sa diversité. Et cette diversité, effectivement, doit être respectée les uns par les autres. Ce n'est pas parce que toi tu as un don que moi je n'ai pas, que je méprise ou je pense moins de ton don. Que ce soit un don de générosité, que ce soit un don de parler en langue, que ce soit un don d'administration, qu'importe. L'Église a besoin de tout dans sa diversité pour la gloire de Dieu, parce qu'il n'y a pas une seule personne qui puisse avoir tout ce qui est nécessaire pour glorifier Dieu, n'est-ce pas? Nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous transforme, mais on ne perd jamais son identité, parce que notre identité est en Christ. Nous sommes qui Dieu nous a créé d'être. Enfin, nous sommes la personne que Dieu a créée. Et donc, nous avançons dans ce sens-là. Dieu nous a donné des dons pour préserver cette unité. Les dons nous aident à... Oui, parfois, supporter les uns les autres, parce que parfois, on est désagréable, oui. Mais, c'est aussi les dons qui nous aident à soutenir, et surtout soutenir les uns les autres, parce que personne n'est à la hauteur. C'est les dons qui nous aident à aimer les uns les autres, parce que l'amour du Christ a été répandu dans nos cœurs. Et donc, c'est si important que Christ, comme il est dit dans ce passage, a donné des dons. Alors, il est peut-être intéressant que nous regardions ce passage qui est un peu étrange, j'avoue. Cet bizarre passage qui suscite tellement de questions, pourquoi Jésus, bon, il descend, il monte, il descend, et puis il donne des dons, qu'est-ce qu'il veut dire là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu au moins un petit point d'interrogation sur ce passage? Je pense, hein? Parce que franchement, descendre, monter, monter, descendre, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, en fait, ça ne vous surprend pas certainement qu'il y a des nombreuses interprétations. Mais il y a deux majeures qui sont plus justes. Et ce qui est intéressant dans ces deux interprétations majeures, on arrive au même résultat. Donc, je vais me baser sur cela et puis les autres, je vais écarter pour le moment parce qu'on n'a pas le temps. D'abord, c'est un exemple de Christ qui, après la crucifixion, est descendu. Vous savez, donc, il était pris de la croix, il était donc enseveli. Mais dans, justement, les symboles de l'Église, les credos de l'Église, on parle justement que Christ qui est descendu dans les enfers. Donc, voilà. Un passage qui parle de cela. L'idée, c'est quoi? C'est qu'après la crucifixion, Jésus entre dans cette place qui s'appelle le sein d'Abraham, où il y avait tous les saints, tous les gens qui attendaient dans la foi et vivaient en attendant sa venue. Donc, il vient, il libère ces gens-là, il monte, il s'assoit à la droite de Dieu, où il déverse le Saint-Esprit et donne les dons à son Église le jour de Pentecôte. Première interprétation. Donc, pour réviser, donc, Jésus, après la crucifixion, il est enseveli, son corps, en attendant la résurrection. Donc, il est descendu dans ce séjour des morts, là où il y avait tous les justes qui attendaient justement sa venue. Donc, il libère ces gens-là qui montent avec lui. Rappelez-vous, il s'assit à la droite de Dieu Et de là, il déverse le Saint-Esprit le jour de Pentecôte en donnant les dons aux gens. Première interprétation. Deuxième interprétation, c'est pratiquement la même chose, hein? Mais ça part un petit peu plus loin dans l'éternité. Et l'idée là, c'est une vision beaucoup plus globale. C'est-à-dire, on interprète ce passage tout simplement, le Christ qui est dans toute éternité, il prend la nature humaine, il devient un homme, il vit parmi nous, il donne sa vie, il est ressuscité, il monte sur la droite de Dieu, hein, et c'est là où il répand son esprit et le jour de Pentecôte. Voilà. Donc, deuxième, juste pour vous rappeler, c'est beaucoup plus large, avec des lignes beaucoup plus vagues, si vous voulez, mais ça couvre toute l'histoire de Christ. Christ qui commence dans l'éternité, qui prend la nature humaine, il vit parmi nous, il est crucifié, il est ressuscité, il monte à la droite du Père, et le jour de Pentecôte, il déverse le Saint-Esprit et il donne des dons à l'Église. Donc nous voyons que dans les deux interprétations, nous arrivons au même. Christ, à la droite du Père, le jour de Pentecôte, il donne le Saint-Esprit, des dons. Et Paul dit que c'est pourquoi? Ben, c'est pour protéger l'unité de l'Église. Les dons sont nécessaires pour que l'Église soit unie et soit forte. Que ce soit une Église locale, que ce soit l'Église globale, universelle. C'est pour cela qu'il est toujours de mauvaise forme de mépriser une autre assemblée ou une autre Église locale, assemblée qui n'est pas comme la nôtre, qui ne fait pas la même chose comme nous. En réalité, globalement, enfin, qui sommes-nous justement pour juger les serviteurs d'autrui? Enfin, on ne peut pas, ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est même dans les choses que nous ne comprenons pas chez les autres chrétiens qui croient en Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous donner la vie. En fait, dans cette diversité même plus large et globale, universelle de Christ, là, on a une diversité pour parler à des gens que nous ne pouvions jamais toucher par notre vie. Hein? Dieu fait tout dans sa diversité et immensité parce qu'il est Dieu. Mais parlons maintenant des dons et de l'enjeu. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies, avec leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons tous, à tous égards, et cela en celui qui est le chef, Christ, de lui le corps tout entier, bien ordonné, cohérent, grâce à toutes les jointures, qui le soutient fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Quels sont les dons? Alors, il n'y en a pas autant que dans les autres listes. Et ceci, ce sont des dons très spécifiques. D'abord, on parle des apôtres. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les apôtres sont les dons pour l'Église, les apôtres eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est? Un apôtre, c'est, la définition, c'est un envoyé de Dieu. Il est envoyé par Dieu. Les 12 apôtres, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont les 12 hommes choisis par le Christ qui ont vu le ministère de Christ et Christ dans sa résurrection. Donc, pour cela, on ne peut pas ajouter plus. Jésus a choisi 12, il n'a pas choisi 10 000. Donc, première chose, ces gens-là, ils ont apporté ce message premier, ils ont posé la fondation de l'Église. Certains d'entre eux ont écrit, contribué à l'écriture du Nouveau Testament. Leur ministère est spécifique. C'est Jésus aussi qui fait le lien entre eux et les 12 tribus d'Israël. Donc nous voyons dans un symbolisme parfait selon l'unité donc de Dieu et les desseins qu'il fait. Ils travaillent donc spécifiquement, ils avaient un appel spécifique. Alors, même si nous n'attendons pas un 13e, 14e, 20 millième apôtre, est-ce que le don d'apôtre existe toujours? Ça, c'est la question. Alors, le Nouveau Testament donne des indices d'un apôtre, justement, qui est moins significatif que les autres. Par exemple, Actes chapitre 15, Jacques, qui est appelé aussi un apôtre, qui est un arbitre dans le concile à Jérusalem, dans la question « Est-ce que les non-juifs peuvent être sauvés ?» Barnabas est aussi appelé un apôtre, Apollos, en 1 Corinthiens, est aussi de manière indirecte aussi. C'est pourquoi certains parlent de Timothée. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Luc? Luc qui a écrit pratiquement un quart de notre Nouveau Testament. Il n'était même pas juif. Est-ce que d'une manière donc moindre que Luc peut être évidemment envoyé? Oui. Je crois que si nous sommes bien d'accord pour comprendre qu'il y avait les 12 qui ont été choisis par Jésus, pourquoi pas d'une manière moindre? Ça ne veut pas dire qu'ils sont de deuxième rang, ça veut dire qu'ils ont un autre appel qui n'est pas celle des premières 12 apôtres. Mais Luc, évidemment, il était envoyé par le Saint-Esprit pour écrire, comme je viens de dire, un quart de notre Nouveau Testament. C'est quand même un appel, un envoyé. C'est aussi quelqu'un qui est équipé par l'Esprit pour débuter une œuvre. Et là, on peut parler, par exemple, d'un quelqu'un comme Augustin, qui a défini d'une manière très puissante la doctrine, des doctrines que nous partageons même aujourd'hui. On peut parler aussi de Luther, qu'il y a 500 ans, qui a débuté toute une œuvre. Et pourquoi pas, même d'un sens encore moindre, mais important, d'un missionnaire qui va dans un lieu où l'Évangile n'a jamais été annoncé et qui établit une église envoyée par Dieu, équipée par le Saint-Esprit. Un apôtre. Deuxièmement, on peut parler... Ah oui, une dernière chose peut-être aussi, ce qui est très intéressant, et je pense qu'il est nécessaire pour nous aussi de garder à cœur concernant une appellation peut-être moindre donc, d'apôtre, c'est que Luc, par exemple, ne prenne jamais le titre apôtre. Aussi, les gens dans l'histoire de l'Église qui ont, de toute évidence, ont été utilisés par Dieu pour commencer des choses. Ils ne se sont jamais pris le titre pour eux-mêmes, apôtres. Et je pense que cette prudence et cette humilité est à noter. C'est que nous devons toujours garder un esprit très humble devant Dieu et aussi devant les autres. Et je dis cela parce que dans certains milieux où les gens prennent le titre apôtre, parfois nous voyons tout le contraire. Et justement, l'orgueil et l'arrogance ne sont pas des attributs du Saint-Esprit, mais plutôt ce sont des œuvres de la chair. Donc c'est juste à noter. Et ça marche aussi dans le même don de prophète. Prophète, justement. Dans l'Ancien Testament, qui était le prophète, on l'appelait très anciennement le voyant. Et là, c'est 1 Samuel et avant. Le voyant, pourquoi? Parce qu'il avait des yeux spirituels pour voir. On pense justement à ce moment où il y avait toutes ces armées autour d'Élisée. Il n'avait aucune crainte. Et puis le serviteur, il était tout basculé. Et puis il a prié, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Là, on voit aussi une autre genre, le prophète, donc, qu'il voit. En fait, on peut dire, ce n'est pas qu'il voit, c'est plutôt que ça lui a été révélé. C'est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il a des yeux que nous n'avons pas, c'est que Dieu lui a révélé des choses. C'est un don du Saint-Esprit. C'est si le Saint-Esprit ne faisait pas ça pour lui, la personne ne verrait rien. Donc, c'est juste des particuliers qui sont importants là où le langage n'arrive pas à tout exprimer bien comme il le faut. Il proclame donc la parole de Dieu. Le prophète de l'Ancien Testament, il est la porte-parole pour Dieu. Et ça, c'est pourquoi, avec les Écritures, donc, qu'il écrive. Donc là, nous sommes en train d'étudier Ésaïe, par exemple. C'est comme, il faut approcher ça, comme si c'était Dieu qui parlait à vive voix. Hein. Donc, les choses sont écrites de cette même manière. Alors, il est important de noter qu'entre Malachie et Jean-Baptiste, il y avait une période de silence de 400 ans. Et donc, après que toutes ces écritures de l'Ancien Testament ont été écrites, nous n'attendons plus d'autres prophètes pour écrire justement d'autres livres à cette même portée. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu est déjà dite, la Bible elle est écrite. Il n'y a rien qui puisse être ajouté à ce que nous avons, qui peut nous apporter quelque chose de plus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit, en ce qui concerne les prophètes, qu'il parle de lui. Justement, rappelez-vous de cette scène lorsque Jésus était sur le mont de la Transfiguration, lorsqu'il y avait Moïse et Élie devant lui, représentant de la loi, représentant des prophètes. Pour ainsi dire, toute la volume de la révélation qui se porte vers lui et qui se tourne vers lui, qui le glorifie dans son moment de gloire. Donc c'est pour cela que nous n'attendons pas un prophète de cette stature. Mais nous savons aussi que dans le livre des Actes, il y avait des gens comme Agabus qui ont été désignés comme des prophètes, pourtant ils n'ont rien écrit. Nous savons aussi que les filles de Philippe prophétisaient. Et nous savons aussi qu'en 1 Corinthiens 14, Paul nous incite tous à aspirer au don de la prophétie. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que tout ce qu'on peut qualifier, et là je ne veux pas revenir de ce qu'on a vu depuis deux semaines maintenant, tout ce qu'on peut qualifier de don prophétique doit être soumis à la révélation de ce qui est écrit. Hein? Donc, une parole prophétique ne peut pas dépasser ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire que c'est une citation directe de l'Écriture. Hein? Mais, par exemple, ça ne peut pas dire quelque chose du genre qui ajoute à l'Évangile, qui incite les gens à faire ce qui est en dehors de ce qui est écrit, par exemple, qui disent, ben voilà, un prophète qui disent, ben voilà, en fait, il ne suffit pas de mettre votre foi en Christ, mais Dieu vous dit maintenant que c'est donc tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, plus ce livre que je viens d'écrire moi-même grâce à des anges. Et donc, avec ceci, mettons ensemble toute... enfin, une nouvelle... Non. Ce qui était déjà écrit est suffisant. Sinon, voilà la logique des choses. Si c'était possible, Jésus-Christ est mort pour rien. N'oubliez pas que dans le jardin, il a imploré Dieu de lui enlever la coupe. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, ben, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Père lui a dit? Rien. Et il est allé à la croix. Donc la réponse est là. Et ça, c'est pour cela qu'il ne peut pas voir une autre révélation au-dessus de cela. Ensuite, il y a des évangélistes. Alors, très important, un évangéliste, ce n'est pas forcément un évangélique. Il y a cette malheureuse terminaison qui... met la confusion dans la langue française. Ce sont deux choses différentes. Une évangéliste et un évangélique. Un évangélique peut être un évangéliste, comme un orthodoxe peut être un évangéliste, comme un catholique peut être un évangéliste. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, un évangélique, d'abord, c'est quelqu'un issu de protestantisme, donc de la théologie réformée, qui croit que la Bible est la parole de Dieu. Voilà ce que c'est un évangélique à la base. Et le terme évangélique, en fait, ça existe depuis la moitié du 19e siècle en France. Et c'est en fait, bon, c'est un point historique qui peut-être ne vous intéresse pas trop, mais voilà, ça a été une définition en France avant que ça ait été vraiment une définition aux États-Unis. Donc parfois on entend les discours que les évangéliques, ça vient des États-Unis. Ce n'est pas vrai en fait. Ça vient de l'Europe, tout cela. Mais bon. C'est juste parce que nous, les Américains, on parle très fort et tout ce qu'on fait, on fait avec brio et tout. Et donc, on fait croire qu'on invente les choses. Mais non, ce n'est pas nous. C'est vous. Alors, donc, les évangéliques, ça, c'est autre chose. Un évangéliste, c'est un don du Saint-Esprit. C'est quelqu'un avec la capacité surnaturel d'avancer l'évangile et les gens écoutent et se convertissent. C'est-à-dire que tout le monde a le devoir, a la responsabilité de partager sa foi et de vivre sa foi d'une manière à ce que nous soyons le sel de la terre, la lumière. Et ça, c'est une forme d'évangélisation. Nous avons tout cela, mais ce n'est pas la même chose qu'avoir ce don dont parle Paul. Là, c'est quelque chose de surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui fait le truc, que du coup, En fait, quand on regarde, ça c'est la preuve, quelqu'un qui a évidemment ce don comme Billy Graham, si vous analysez les messages de Billy Graham, c'est le truc le plus simple de tout. Il va à quelqu'un et puis il dit, voilà, Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour te donner la vie. Est-ce que tu veux donner ta vie à Christ? Et le gars, il dit, bah oui. Mais imagine-toi, toi qui n'as pas le don, tu dis ça à quelqu'un et qu'est-ce qu'il va te dire? Ah bon? Vous voyez, c'est ça la différence. Hein? Il y a des gens qui sont surnaturellement équipés. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a le désir ardent de partager l'Évangile. Ça peut être un signe qu'il a, mais ce n'est pas la même chose. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont ce désir ardent de partager l'Évangile, mais ils n'ont pas le don, et parfois ils sont un petit peu déséquilibrés, parfois, hein. Et il ne fait qu'offenser les gens autour d'eux. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on a l'urgence. D'ailleurs, que Dieu nous donne tous cette urgence, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre et qui périssent tout bêtement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu nous donne tous cette flamme, cette passion. Mais il y a des gens sont spécialement équipés. Ils ont le... Ça vient du Saint-Esprit. D'ailleurs, ça c'est pourquoi, avant de partager votre foi, priez. Priez. Même si vous ne sentez pas que vous avez ce don, priez. Parce qu'il est souverain et il peut vous équiper même pour le moment. Ensuite, il y a des pasteurs enseignant. Soit c'est deux choses séparées, pasteur et enseignant, il y a tout un débat théologique, soit c'est la même chose mais dit de manière différente. Je suis de l'opinion qu'on peut parler des deux choses parce qu'il y a des gens qui ont un don pour enseigner mais qui n'ont pas le cœur d'un pasteur. Et qui, d'ailleurs, j'ai un ami qui, sortir de la fac, il a beau essayer pendant un an d'être pasteur, mais non. mais aujourd'hui, il est quand même prof en théologie. Et il fait vraiment un travail superbe de cela. Donc, OK, chacun a son don. C'est pour cela que, oui, quelqu'un peut enseigner sans avoir forcément le cœur de pasteur, mais je vois très mal un pasteur qui n'a pas un don d'enseignant. C'est certainement d'autres choses. C'est certainement quelqu'un qui a peut-être un cœur ou un don de compassion ou d'exhortation, comme un paraclet ou quelque chose de ce genre-là. Mais le cœur pastoral, enseignant, c'est quelque chose qui est si nécessaire, que ce soit pour le groupe des femmes, l'école du dimanche, diacre, ancien. Enfin, c'est très nécessaire parce que nous sommes tous, en fait, façonnés et recréés à l'image du grand berger, le bon berger et pasteur de notre âme, Jésus-Christ. Alors, pourquoi tout ça? En fait, le but et l'enjeu, c'est tout cela est donné par Jésus pour nous aider à remplir notre rôle. Justement, verset 12, pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Parce que nous avons besoin d'être perfectionnés. Il faut que nous avancions ensemble. Ou bien, verset 13, pour que nous soyons tous parvenus à l'unité. Donc, tous ces dons sont pour nous unir ensemble. Ou bien, verset 14, pour que nous ne soyons pas des enfants ou enfantines. en flottant vers les diverses doctrines et fausses idées qui circulent dans le monde, non, pour que nous soyons des hommes et des femmes faits, matures. Ou bien, verset 15, pour justement nous diriger, pour être transformés à l'image de Christ, pour que chacun, à sa manière, dans sa diversité, dans la personne que Dieu vous a créé d'être plus comme Christ, pour que l'Église croître, pour que l'Église s'unisse, pour que l'Église fasse exactement ce que Dieu lui a créé de faire. Et donc, c'est ce qui nous garde du danger, qui nous garde dans la foi. Et c'est pourquoi le chrétien est appelé à une communauté, une assemblée, une église locale. Parce que les dons visent le bien-être de l'Église et l'individu. Mais l'individu ne peut pas s'épanouir en Christ s'il n'est pas dans une communauté, tout comme l'assemblée ne peut pas s'épanouir non plus sans les individus. Voilà. Donc, je vais arrêter là. C'est un peu plus long que de ce que je voulais, mais il est important aussi pour nous de passer un temps de questions pour que nous ayons aussi le temps de prier aussi dans ce sens-là.